Merci d'écouter RFI, il est 12h à Paris, 10h temps universel. Le journal, Charlotte Hydrac. Bonjour Charlotte.
Bonjour. Désistement, ralliement, consigne de vote, tractation tous azimuts en France avant le second tour des législatives. Hier, le Rassemblement National a encore progressé. L'extrême droite est aux portes du pouvoir devant le nouveau Front Populaire de gauche. Le camp présidentiel décroche. Les candidats qualifiés ont jusqu'à demain, 18h, pour se maintenir ou se retirer. À suivre aussi, après la Belgique, la Hongrie, l'eurosceptique Viktor Orban prend la présidence tournante de l'Union européenne ce lundi. Vers un sauvetage d'Atos par les créanciers et les banques, le géant français de l'informatique endetté et ballotté depuis des mois. Et puis le décès de l'écrivain albanais Ismail Kadare, 88 ans, auteur d'une œuvre consacrée à la dictature communiste dans son pays. Il disait, je cite, « La littérature a été le sens de ma vie, elle m'a donné le courage de résister, l'espoir de tout surmonter. » C'est une nouvelle semaine politique très intense qui démarre en France en vue du second tour des législatives ce dimanche 7 juillet. Quelle stratégie au vu des résultats d'hier? Les candidats qualifiés ont jusqu'à demain, donc 18h, pour se maintenir ou se retirer. On le rappelle, le Rassemblement National a fait un score inédit avec 33% des voix devant le nouveau Front Populaire de gauche, près de 28%. Le camp présidentiel en sort affaibli avec 20% des suffrages. L'extrême droite est donc aux portes du pouvoir en France. Le RN veut y croire. Reportage dans son QG hier soir, Pierrick Bonneau.
Marine Le Pen sait qu'elle vient d'être réélue dès le premier tour. Lorsqu'elle s'avance devant quelques centaines de militants dans son fief d'Hénin-Beaumont, quelques remerciements, mais pour la députée du Pas-de-Calais, l'heure n'est pas encore à la fête.
Rien n'est gagné et le second tour sera déterminant. Déterminant pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition NUPES 2, déterminant surtout pour donner à Jordan Bardella une majorité absolue à l'Assemblée nationale, pour lancer, dès la semaine prochaine, le redressement de la France et le rétablissement de l'unité et de la concorde nationale.
À 200 km de là, plus de 300 journalistes attendent la prise de parole de Jordan Bardella dans une salle parisienne. Le candidat à Matignon s'avance derrière un pupitre sur lequel on peut lire « L'alternance commence, 5 minutes d'allocution, pas une de plus » et Jordan Bardella se pose en rassembleur.
J'entends être le Premier ministre de tous les Français, à l'écoute de chacune et de chacun, respectueux des oppositions, ouvert au dialogue, et soucieux à chaque instant de l'unité de la nation.
Le patron du RN repart aussitôt sans prendre aucune question des journalistes. Pas d'improvisation ni prise de risque. Une stratégie pour l'instant payante pour Jordan Bardella.
Le second tour sera déterminant, dit donc Marine Le Pen. Ce qui est en jeu maintenant, ce sont les potentiels triangulaire dans plus de 300 circonscriptions. Le nouveau Front Populaire a donné une consigne claire. Il appelle ses candidats arrivés en troisième position à se retirer là où le RN pourrait l'emporter. Le Premier ministre Gabriel Attal, lui, a tendu la main à la gauche pour la coalition présidentielle. En difficulté, c'est l'heure du tout pour le tout, Valérie Gasse.
À peine son allocution prononcée à Matignon pour prendre acte des résultats, Gabriel Attal a envoyé un premier message d'entre-deux-tours en faisant savoir qu'il suspendait la réforme de l'assurance chômage, une réforme décriée par la gauche et qui, selon l'entourage du Premier ministre, pourra faire l'objet de discussions entre les forces républicaines, un acte de campagne et une promesse de compromis qui vise à poser les bases d'une nouvelle gouvernance. À partir de ce que Gabriel Attal a nommé dans sa déclaration, une majorité de projets et d'idées. Incapable désormais d'avoir seule une majorité, pas même relative, le camp présidentiel joue sa dernière carte en tendant la main à la gauche et en faisant miroiter la possibilité d'une coalition de gouvernement contre le Rassemblement national dans l'hypothèse où dimanche prochain celui-ci n'aurait pas la majorité absolue. Empêcher Jordan Bardella d'entrer à Matignon, c'est l'objectif partagé de l'alliance macroniste et du nouveau Front Populaire. C'est le plus petit dénominateur commun de deux blocs qui se sont combattu âprement au premier tour et dont les alliances et désistements au second ne coulent pas de source.
Effectivement, dans le camp présidentiel, la stratégie de barrage n'est pas si claire. Des responsables, comme par exemple le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, rejettent des désistements au profit de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et appellent donc à décider au cas par cas. L'actualité politique en France, scrutée depuis l'étranger, en Russie notamment, le Kremlin dit suivre de très près les élections alors que l'extrême droite française est régulièrement accusée de proximité avec Moscou. Et puis à noter cette réaction sur les marchés financiers ce matin, la Bourse de Paris a ouvert sur un bond de 2,59%. D'après des analystes, les marchés sont soulagés pour l'instant du fait que le RN n'ait pas obtenu une majorité absolue.
RFI, Radio France Internationale.
Et c'est dans ce contexte, avec un chef d'État français affaibli politiquement, que la Hongrie prend la tête du Conseil de l'Union européenne. Ce lundi, elle succède à la Belgique, avec à sa tête le très eurosceptique Viktor Orban, ce qui pose un certain nombre de questions. Le Premier ministre hongrois est proche du Kremlin malgré la guerre en Ukraine. Ses positions sur l'immigration ou l'état de droit créent un malaise à Bruxelles. La Hongrie a promis d'agir en tant que médiateur impartial, je cite. C'est un espoir de sortie de crise pour le géant français de l'informatique Atos. Les créanciers et banques se sont entendus hier pour reprendre et sauver eux-mêmes l'entreprise plongée dans le chaos ces derniers mois, ballottée au gré des offres de reprise. Et donc, Anne Verdaguer, c'est un soulagement pour Atos qui emploie quelques 100 000 salariés dans 69 pays.
Oui, la situation du groupe, autrefois fleuron français de l'informatique, a commencé à se détériorer il y a 3 ans. Jusqu'à se voir éjecté du CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris. La dette atteint alors la somme colossale de 4,8 milliards d'euros et l'action vaut aujourd'hui moins d'un euro en bourse. En février, une procédure de restructuration est déclenchée. Il y a quelques jours, nouvelle déconvenue, le consortium mené par OnePoint, premier actionnaire d'Atos choisi pour mener la reprise, jette l'éponge. Or, pour l'État, l'avenir d'Atos revêt une forte dimension stratégique en raison de ses activités, notamment dans le domaine de la défense et du nucléaire. L'accord annoncé hier soir est donc plus que bienvenu. Il garantit un montant minimal de liquidité de 1,1 milliard d'euros jusqu'au 31 décembre 2026. La dette, elle, sera réduite de 3,1 milliards d'euros. Reste l'inconnu sur le futur rôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, candidat à la reprise. Est-il hors jeu ? Créanciers et banques disent ne pas être fermés à l'arrivée d'un industriel.
Anne Verdaguer, tous aux abris dans les îles des Caraïbes, la Barbade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, les Grenadines et Grenade. L'ouragan Beryl approche avec des vents pouvant atteindre les 195 km/h. Beryl devrait atteindre les côtes de plusieurs îles caribéennes là dans la journée. C'est une immense figure des lettres européennes qui nous a quittés. L'écrivain albanais Ismail Kadare s'est éteint ce lundi à Tirana en Albanie. Il avait 88 ans, auteur d'une cinquantaine d'ouvrages allant du roman au théâtre et à la poésie, et avec une volonté constante, hein, Olivier Roger, celle d'affirmer sa liberté face au totalitarisme.
J'essaye de faire une littérature normale dans un pays anormal, voilà ce que disait Ismail Kadare. Il était né dans l'Albanie communiste du dictateur Enver Hoxha et il avouait avoir survécu grâce à la littérature qui lui donnait, disait-il, le courage de résister. Élevé au rang de grand officier de la Légion d'honneur en octobre dernier par le président Macron, Ismail Kadare n'a jamais eu à attendre la gloire et les honneurs. Son premier roman, Le Général de l'armée morte, publié en 63, lui a valu une reconnaissance internationale et une flopée de prix prestigieux. Si la littérature était pour lui une seconde patrie, c'est pourtant bel et bien sa première, l'Albanie, qui sera au centre de son œuvre. Sa vie épouse les soubresauts politiques d'une nation basculant dans l'obscurantisme. Plusieurs fois contraint à l'autocritique publique, Ismail Kadare aura longtemps joué au chat et à la souris avec le régime et aux donneurs de leçons qui lui reprochaient de ne pas avoir été suffisamment sincère avec les dictateurs. Il leur envoyait cette question, faut-il être sincère avec les bandits ou les fauves ? Avouez que cette question est pertinente. Exilé en France en 90, il n'aura cessé de clamer son amour de la littérature, au panthéon de laquelle il rejoint désormais ses maîtres à penser, Goethe, Cervantes et Shakespeare.
Olivier Roger, j'ajoute une citation, la littérature est mon plus grand amour, le seul, le plus grand, incomparable avec toute autre chose dans ma vie, et comme elle, l'écrivain n'a pas d'âge. Disait donc Ismail Kadare. L'euro de foot et des retrouvailles très attendues entre deux meilleurs ennemis, France-Belgique, 16h temps universel tout à l'heure, avec à la clé un ticket pour les quarts de finale après un premier tour poussif pour les Bleus, et puis au programme aussi Portugal-Slovénie, ce sera à 19h temps universel. Et puis les coureurs du Tour de France sur la route de la troisième étape, ce lundi toujours en Italie, direction Turin, et c'est le Slovène Tadej Pogacar qui porte le maillot jaune. RFI presque 12h10, ici à Paris. Tout de suite, vous retrouvez Emmanuel Bastide, 8 milliards de voisins et de voisines.